Je suis en admiration devant le Seigneur qui connaît vraiment nos cœurs et tous nos besoins. C'est un Dieu sage, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu bon. Et je le remercie parce que le thème du message a été déjà mentionné, que ce soit par Pascal au début du culte, par notre frère quand il a prié, par les chants qu'on a chantés. Le message d'aujourd'hui, c'est le thème central de la Bible. C'est le plus beau thème. Et c'est un thème puissant, mais en même temps, c'est un thème, on peut dire, controversé en même temps. Je veux parler de l'amour de Dieu. Alors, pour baser notre message, nous allons lire ensemble 1 Jean, chapitre 3. Un passage magnifique. Nous lisons ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Quel passage magnifique. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, le thème du message, plus précisément, ce sont les aspects extraordinaire de l'amour de Dieu. Les aspects extraordinaires de l'amour de Dieu. Et j'aimerais citer 3 grands aspects ce matin. Le premier, ce sont les aspects sacrificiels de l'amour de Dieu. Les aspects sacrificiels de l'amour de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Jean 3, 16 nous dit, que nous connaissons tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, l'être suprême, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'immuable, l'omniscient, l'omnipotent. Car Dieu, donc l'être suprême, a tant aimé l'amour suprême. Il n'y a pas de plus grand amour que cet amour-là. Car Dieu a tant aimé le monde, l'inclusion suprême, riche, pauvre, toutes les ethnies, toutes les classes sociales, qu'il a donné la preuve d'amour suprême. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Son Fils unique, le don suprême. Dieu ne nous a pas donné quelque chose dont il ne voulait pas. Il ne nous a pas donné son second, mais il nous a donné son premier, son unique Fils. Afin que quiconque, ça c'est l'objectif suprême, ne laissez personne dehors. Mais il y a une condition, croit en lui. C'est la condition suprême, ne périsse point, le danger suprême. Oui, l'enfer existe. Il y en a qui disent, ah oui, Dieu est tellement bon, mais il est bon C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'offre suprême. Donc, Jésus, il est mort pour nous. C'est ce qu'il nous dit aussi dans Jean 10, 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et Jean 15, verset 15 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, il faut comprendre que Jésus n'est pas mort parce qu'il le devait, parce que son temps naturel était venu pour mourir, comme nous, par exemple, nous mourons de vieillesse, ou bien à cause d'un regrettable accident ou d'une catastrophe naturelle. Mais il est mort par amour pour nous. Amen. Il est mort par amour pour nous. On raconte cette histoire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, une famille juive nommée Rosenberg, qui était dans un camp de concentration, où les prisonniers donc pouvaient échapper donc au four à gaz aussi longtemps qu'ils pouvaient travailler. Dans cette famille, il y avait un jeune garçon partiellement handicapé. Et donc, qui ne pouvait pas travailler comme tout le monde. Les parents étaient séparés pendant la journée, occupés à leurs tâches respectives. Et alors, c'est avec beaucoup d'impatience que le soir, ils rentraient donc pour s'enquérir de la santé de tout le monde, comment tout le monde allait. Et puis un jour, la crainte qu'avait le père s'est réalisé. Un soir, lorsqu'il est rentré, il n'a pas vu le jeune garçon handicapé. Et tout ce qu'il a vu, c'est son frère, son grand frère qui était dans un coin, en train de pleurer. Et alors il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors il a dit, eh bien, mon frère, comme il ne pouvait pas travailler, on est venu le chercher pour l'amener au four à gaz. Et alors le père a aussi remarqué que la mère n'était pas présente non plus. Et il a dit, mais où est ta maman? Et alors le garçon, toujours en pleurant, disant, eh bien, mon petit frère, il avait tellement peur qu'il s'est accroché à maman et il ne voulait pas la lâcher. Et la maman disait, ne pleure pas, j'irai avec toi. Ne pleure pas, j'irai avec toi. Et c'est ainsi que Christ, il fait aussi avec nous. Il nous sert dans ses voies, il nous dit qu'il est avec nous et c'est ce qu'il a fait, il est mort pour nous. Le deuxième aspect sacrificiel de Christ, de l'amour de Christ, de Dieu pour nous, c'est que Christ, il est mort non seulement pour nous, mais aussi il est mort à notre place. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il est écrit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et Romains 5, verset 18, à partir du verset 18, un passage que j'aime beaucoup, où Paul nous dit ceci, « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or,
La loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, Christ, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et toujours Romains 8, verset 1, il est dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Aujourd'hui, si je ne suis plus condamné, c'est parce que Christ a été condamné à ma place. Et même dans la justice humaine, cela existe. On ne peut pas condamner quelqu'un on ne peut pas exécuter une peine pour le même crime. On raconte que du temps de Napoléon, il y avait un homme qui avait été condamné donc à être exécuté. Et c'était un jeune. Ce jeune était vraiment tourmenté par cette idée qu'un jour, il allait être exécuté. Alors, il était en prison, attendant vraiment le jour de son exécution. Et tous les jours, il réfléchissait à cette exécution terrible. Et puis un jour, donc le jour J est arrivé, et alors son père est venu lui rendre visite pour le consoler, pour l'aider à passer ce dernier moment très, très, très douloureux. Et il causait. Et finalement, cet homme, qui avait été tourmenté pendant des jours, avec la discussion et puis la fatigue, il s'est endormi. Et puis, vers 15 heures comme ça, le bourreau est arrivé et a cité son nom. Appelons-le Apollon, par exemple. Il a dit « Apollon !» Et voilà, lui, il dormait. Mais il y avait son père qui était là. Et tous les deux s'appelaient Apollon, le nom de famille. Et quand on a appelé Apollon, donc voilà, le père, il est sorti et il a été amené pour être exécuté. Et ainsi, on a exécuté le père. Quelque temps plus tard, le fils s'est réveillé. Et alors, il s'est demandé, « Mais c'est aujourd'hui que je devais être exécuté. » Et alors, il s'est présenté devant le bourreau, disant, « Voilà, aujourd'hui, je devais être exécuté. » On lui a dit, « Écoute, va-t'en, Apollon a déjà été exécuté. » Effectivement, donc, puisque son père a été exécuté, on ne pouvait plus l'exécuter. Donc, Christ, il a pris notre place. Et donc, c'est pour cela que Paul pouvait dire, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, Christ est mort. Pour nous, il est mort à notre place, mais il est aussi mort à cause de nous. Si nous n'avions pas péché, si nous n'avions pas désobéi, c'est clair qu'il ne serait pas mort. Et ce qui est extraordinaire dans l'amour de Christ pour nous, dans l'amour de Dieu pour nous, c'est que Christ aurait pu choisir une mort douce, hein, si cela existe vraiment. Il aurait pu choisir une mort calme, une mort tranquille, mais il a accepté de subir le pire supplice qui existait à l'époque, à savoir la croix. Et la croix, c'était réservé aux pires criminels. C'était un supplice romain. Et les Romains réservaient cela surtout aux étrangers. Pas un Romain qui pouvait être exécuté par la croix. Mais la croix, c'était les pires criminels et c'était fait pour les étrangers. Donc voilà, Christ, il a accepté la pire humiliation, les pires moqueries, le pire simulacre de justice. Il a accepté tout cela. Et il a donné son sang. Nous venons de célébrer la Sainte Cène, le sang. Cela représente une mort violente. c'est, quand on voit le sang, c'est pas quelque chose de douce, mais c'est terrible. Et je me rappelle lorsque j'étais adolescent et que j'observais les enfants jouer. Ce qui me frappait, c'est que parfois, les enfants, en jouant comme ça, ils pouvaient se cogner et puis après rester stoïques et ne pas pleurer parce que c'est eux-mêmes qui se sont cognés. Mais il suffisait que s'ils apercevaient seulement une goutte de sang, et alors, ils commençaient par pleurer. Seulement la vue du sang. Et je me rappelle, certains disaient aussi que, par exemple, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, ceux qui étudient pour devenir infirmiers, infirmières ou médecins, la chose la plus difficile pour eux à surmonter au début, c'est la vue du sang. Donc vraiment, le sang, cela nous montre la violence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, ça c'est un autre sujet, mais on voit que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait défendu aux enfants d'Israël de consommer le sang. Et la seule fois où Jésus dit qu'il faut prendre le sang, c'est son sang à lui. Il dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Donc Jésus, il est mort pour nous, il est mort à notre place et il est mort à cause de nous. Ça, ce sont les aspects sacrificiels de l'amour de Dieu. Maintenant, j'aimerais aborder d'une autre catégorie d'aspects. Ce sont les aspects déconcertants de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui nous ébranle, c'est ça qui nous fait douter parfois. Christ est mort pour que nous devenions enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, il nous discipline. Et cela nous déconcerte. Vous ne pouvez pas faire le mal comme les méchants et rester impunis. Je crois que probablement je vous ai raconté cette histoire. Je me rappelle lorsque j'étais adolescent à l'école secondaire et je disais au Seigneur, mais ce n'est pas juste. Parce que je voyais que mes camarades, eux, ils faisaient toutes sortes de bêtises. Ils pouvaient faire toutes sortes de bêtises et rien ne leur arrivait. Et moi, dès que j'essayais de faire la moindre chose, et j'étais puni. Et qui est-ce qu'on attrapait? C'était toujours moi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et moi, le moindre écart de conduite, j'étais vu. Et en particulier, je me rappelle cet incident. Donc, à l'école où j'allais, on commençait à 7h30 le matin et on terminait à 6h moins le quart. Donc, une heure le matin, on avait ce qu'on appelle une heure d'étude. Et la dernière heure de la matinée, c'était heure d'étude. Et la dernière heure de l'après-midi, c'était aussi heure d'étude. Et ce qu'on n'appelait pas heure d'étude, c'était l'heure où on devait faire ses devoirs. Donc, une fois rentré à la maison, il y avait très peu de choses à faire. Et donc, je m'appelle un jour, fin d'après-midi, c'était un devoir de maths. Et à un moment donné, tous mes camarades chahutaient, etc. Et moi, j'étais concentré à faire mon devoir. À un moment donné, quelques-uns de mes camarades m'ont dit, écoute, Martin, qu'est-ce que tu perds ton temps à essayer de calculer, etc. Il y a un tel, le premier de la classe, il a déjà tout fait, il suffit de copier. Et moi, j'ai essayé de résister. Mais bon, la pression était tellement forte, j'ai dit, bon, ok. j'ai dit, ok, je vais accepter. Et à l'époque, donc, il y avait un surveillant qui circulait dans le couloir, qui passait de classe en classe, qui veillait. Et imaginez, c'était juste au moment où le surveillant passait et entrait dans la classe qu'il m'a vu en train de faire l'échange de feuilles. Et c'est là qu'il m'a surpris. Et le plus fort de la chose, c'est que l'autre camarade, la feuille qu'il m'a donnée, il n'y avait pas de nom inscrit dessus. Mais moi, j'avais écrit mon nom sur la feuille. Et la seule personne qui était attrapée, c'était moi. On disait, ah, Martin, tu es en train de tricher. J'étais vraiment surpris. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que le lendemain, moi, au départ, je pensais très bien avoir, je faisais bien mon calcul. Et le lendemain, quand le professeur a corrigé le devoir, celui qui était soi-disant le premier de la classe, il s'était trompé dans son calcul et c'est moi qui avais bien calculé. Malheureusement, j'avais gommé ce que j'avais fait pour mettre une erreur. Et là, j'ai appris ma leçon, j'ai dit, OK, d'accord, je ne triche plus en classe. Vous voyez, à l'époque, je pensais que Dieu était injuste à mon égard, mais qu'est-ce que Dieu faisait? En réalité, Dieu me protégeait. Dieu me protégeait pour que je ne triche pas, pour que... Et si je continuais dans cette voie, peut-être que je serais un délinquant ou peut-être que je ne serais plus en vie aujourd'hui. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, chapitre 12, Hébreux 12, à partir du verset 5, il a dit ceci. « Et vous oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout son part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Et je me rappelle avoir entendu cette histoire à la radio une fois. C'était un prédicateur qui donnait cet exemple. Il disait une fois, il y avait un enfant qui était emprisonné pour vol. Et un jour, sa maman est venue lui rendre visite. Et le fils a dit, non, je ne veux pas te voir. Parce que si, quand j'étais petit, tu me corrigeais, eh bien, je ne serais pas là dans cette prison. Notre Dieu, c'est un bon Père. Donc, s'il nous corrige, c'est pour notre bien. Donc, comme le dit le passage de Hébreux, donc nous devons accepter la correction de Dieu. C'est pour notre bien qu'il le fait. Donc, lorsque Dieu nous discipline, cela nous déconcerte, mais il y a aussi un autre point qui nous déconcerte, un autre aspect. Le Seigneur nous conduit non pas autour des obstacles, mais à travers les obstacles, à travers les adversités, à travers les difficultés. Le peuple de Dieu n'est pas exempt des difficultés, mais est assuré du secours de Dieu, de sa présence et de sa victoire. Amen. On n'est pas exempt des difficultés, mais on est assuré de son secours, de sa présence et de sa victoire. Le ciel n'est pas encore ici-bas. Hébreux 11, à partir du verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Imaginez l'humiliation qu'ils ont dû subir, mais ils ont fait confiance à Dieu. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que c'est magnifique. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ésaïe 43, à partir du verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de nos adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, à travers les adversités, c'est la façon de Dieu de nous former, de nous modeler, de nous enseigner la foi, la patience, la sagesse, l'humilité. Vous savez, il y avait cette blague, la prière d'un Américain. Seigneur, donne-moi la patience, maintenant. c'est pas possible, c'est à travers les adversités qu'on apprend la patience, qu'on apprend l'humilité. À travers les adversités, c'est la façon de Dieu de nous apprendre l'obéissance et de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous, à combien plus forte raison? Lui, il était parfait. Il n'avait pas besoin de cela. Donc, c'est à travers les adversités que Dieu nous forme. C'est la façon de Dieu de nous rendre garantie pour l'éternité. Ce n'est pas garantie à vie, c'est garantie pour l'éternité. Garantie contre le feu. On est déjà passé par le feu. Le feu peut arriver. Je suis déjà passé. Je suis garanti contre le feu. Garanti contre l'eau. Je suis déjà passé par l'eau. Allez, ça peut venir. Garanti contre la moquerie. Garanti contre les persécutions. Garanti même contre la mort. Je suis déjà mort en Christ. Amen. Comment peut-on tuer celui qui est déjà mort? C'est la façon de Dieu de faire de nous un joyau inestimable qui est passé par toutes les épreuves. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc ce qui nous déconcerte, c'est la discipline, la traversée du désert, du feu, etc. Eh bien, Dieu est en train de nous travailler, de nous transformer, de nous modeler, eh bien, à l'image de son Fils. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça, ce sont les aspects déconcertants de l'amour de Dieu. Il nous discipline et il nous conduit, non pas autour des adversités, mais à travers les adversités. Troisièmement, les aspects réconfortants de l'amour de Dieu. Le premier aspect dans cette catégorie, c'est l'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites. Alléluia. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites. OK, il n'y a pas un qui soit plus méritant que l'autre. Il dit, ah oui, moi, je mérite l'amour de Dieu. Non. Romains 5, verset 6. En fait, c'est ce passage que je voulais dire, que j'aime beaucoup. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des justes, non? Des impies. Des injustes, il est mort pour des injustes. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Deutéronome 7. Je vais dans l'Ancien Testament maintenant pour voir que c'est la même chose. C'est le même Dieu. Sauf qu'il y a une évolution dans la révélation. Il y a une progression. Deutéronome 7, verset 6. Voici ce que Dieu dit par rapport à Israël. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Magnifique. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Hein? Dieu vous a choisi, pourtant vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Non, ce n'est pas parce que vous êtes magnifique, ce n'est pas parce que vous êtes extraordinaire, ce n'est pas parce que vous êtes bon, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que Dieu vous a choisi, mais Dieu a voulu tout simplement honorer sa promesse, son serment à vos pères. C'est parce que tout simplement Dieu, il est bon, c'est sa nature. Il est amour, et parce que c'est sa nature qu'il le fait. Pas à cause de ta nature, mais c'est à cause de sa nature. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Jusqu'à la millième génération. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Bien-aimés, Dieu nous aime non pas parce que nous sommes beaux, riches, talentueux, puissants, célèbres, pleins de succès, grands, géniaux, saints, parfaits, etc. Dieu nous aime non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. Un Dieu d'amour, impartial, qui ne fait pas de discrimination entre ethnies, classes sociales, etc., etc. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a écrit ceci. Il a dit, il a fait une expérience quand il est devenu père pour la première fois. Alors il était là avec son nouveau bébé. Il dit, c'est incroyable comme j'aime ce bout de chou. Je l'aime. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il fait pour que je l'aime? Il ne travaille pas. Il ne contribue à rien. Il n'apporte rien à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure toute la journée. Il ne fait que manger, boire, dormir, faire des saletés dans ses couches culottes. Et pour ça, je l'aime. Donc voilà, le Seigneur nous aime parce qu'il est un père, c'est tout. Parce qu'il est un père, et c'est pour cela qu'il nous aime. C'est pas à cause de qui nous sommes. Nous sommes comme ce bébé. On ne fait que pleurer, faire du bruit, déranger. Mais le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Ça, c'est l'aspect réconfortant de Dieu. Il nous aime non pas à cause de nos mérites, mais il nous aime à cause de qui il est, à cause de sa parole, à cause de sa nature. Deuxième aspect, réconfortant, l'amour de Dieu est éternel. Et notre frère l'a déjà lu en ouverture du culte. L'amour de l'homme est partial, intéressé et temporaire. Mais l'amour de Dieu est impartial, désintéressé et éternel. Hein? L'amour de l'homme, c'est pour un temps. C'est intéressé. Mais l'amour de Dieu est totalement désintéressé et éternel. Ésaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Quand elle l'oublierait? Parce que de nos jours, on voit ça arrive, hein? Il y a des boîtes pour bébés, hein? Donc, on peut être géniteur, mais ne pas être vraiment mère et père. Ce sont ceux-là qui ont vraiment le cœur de père et de mère qui sont vraiment des parents. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté, ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Pourquoi est-ce que Dieu nous conserve sa bonté? Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Extraordinaire. Extraordinaire. Oui, l'amour de l'homme est temporaire. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il entre à Jérusalem, une semaine avant la crucifixion, tout le monde criait « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On mettait les vêtements par terre, hein, pour l'accueillir. Tout le monde applaudissait. Et puis une semaine plus tard, c'est cette même foule qui criait « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Et je me rappelle aussi quand j'étais adolescent à l'école secondaire, j'avais un prof, un orateur d'exception, qui était le préfet de la ville, un homme admiré par la population. Ben, à un moment donné, il a eu le malheur de s'engager dans la politique. Il était candidat face à d'autres. C'était peu avant que je ne vienne ici en Belgique. J'ai vu comment cette même population de ma ville s'est retournée contre cet homme. Tout le monde manifestait dans la rue disant « Abat cet homme !» Voilà, ça c'est cet homme qui était admiré est tombé en disgrâce du jour au lendemain. Rappelez-vous aussi de Nicolae Ceaușescu, qu'on applaudissait aussi. Mais en un rien de temps, on l'a jugé. Hein? Ses propres militaires, je crois que son procès a duré une heure et demie, hein, c'était en 89, hein, 25 décembre 1989. Mais grâce à Dieu, l'amour de Dieu, il est éternel. Il est éternel et c'est ce qui est réconfortant. Donc le message d'aujourd'hui, Dieu nous aime. Et il a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils unique à la croix pour mourir. Pour nous, à notre place et à cause de nous. Donc, si nous n'avions pas péché, Christ ne serait pas mort. Mais il a accepté de mourir à cause de nous, pour nous et à notre place. Et nous devons nous rappeler aussi que la discipline de Dieu dans notre vie n'est pas l'absence de son amour, mais plutôt la preuve de son amour pour nous. Et que, donc, il veut que nous soyons semblables à son Fils. Et bien que nous puissions passer par des difficultés, ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés ou qu'il ne nous aime pas. Mais sachez que c'est à travers ces difficultés qu'il nous forme et nous transforme et manifeste aussi sa gloire. Si Israël n'était pas devant la mer Rouge, il n'y aurait pas eu la traversée de la mer Rouge. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est au travers du passage dans le désert que Dieu a montré à son peuple qu'il est capable de pouvoir, même dans le désert, pendant 40 ans. Il a dit, vos souliers n'ont pas été usés. Je vous ai donné la manne, je vous ai donné les cailles, j'ai pourvu à toutes ces choses. Donc, au travers des difficultés, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Donc, rappelons-nous que son amour aussi ne dépend pas de nous, mais de nos mérites. Parfois, le diable peut venir nous faire douter aussi de l'amour de Dieu. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Mais Dieu lui-même, non pas à cause de mes mérites, mais à cause du fait qu'il est Père. Aussi longtemps que nous sommes son enfant, donc nous n'avons pas à avoir peur. Rappelons-nous que son amour ne dépend pas de nos mérites et que son amour est éternel. Toutefois, rappelons-nous aussi qu'il est mort pour nos péchés. Donc, et par conséquent, nous ne devons pas retourner dans le péché. Et que si nous sommes vraiment ses enfants, donc nous devons demeurer dans son amour. Amen. Nous devons demeurer dans son amour et laisser son amour aussi gagner notre cœur et que nous puissions répondre par l'amour. Dieu nous a manifesté son amour qu'en retour, nous puissions l'aimer. Comme Jean nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu est extraordinaire. Ne doutons pas de son amour comme le diable voudrait le faire si souvent. Et dès le jardin d'Éden, c'est ce que le diable a essayé de faire. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu nous a fait des promesses et parfois le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit? Remercions le Seigneur.